Nzambira samirana.
Le journal avec Francine Kanyani.
Vous écoutez Radio Nzamba Agathe Kakawe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Les titres de l'actualité de ce 8 janvier 2021. Les frontières terrestres et maritimes seront fermées à la circulation des personnes dès lundi prochain. C'est l'une des mesures prises par le comité chargé de lutter contre la COVID-19 pour freiner la propagation de cette pandémie. Les cas de la COVID-19 ont été détectés en province Makamba au sud du pays. Dans ce journal, nous irons au camp de réfugiés de Mahama au Rwanda pour parler des Burundais qui ont réussi leur vie grâce à l'élevage du bétail. À suivre également dans cette édition, la saisie de plus de 4 millions de sachets non biodégradables en province Muyinga au nord du pays, c'était mercredi dernier.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
La mise en onde de ce journal est assurée par Innocent Kogimana à la réalisation Bertrand Ngendakulio. 8 personnes ont été testées positives à la COVID-19 au chef-lieu de la commune Mawanda, c'est dans la province Makamba, selon des sources sur place. Parmi ces personnes figurent 3 religieuses, une novice et 2 prêtres de la paroisse catholique de Mawanda et 2 infirmiers du centre de santé de Mawanda, appelés communément Garded. Les mêmes sources précisent que la santé de toutes ces personnes n'est pas en danger. Godzilla Zanier, Françoise, gouverneur de Makamba, a sorti en communiqué le soir de ce jeudi pour rappeler au respect des mesures d'hygiène dans toutes les places publiques et dans les ménages. Elle met aussi en garde quiconque violera ces mesures. Mercredi dernier, le ministre de la Santé avait annoncé 40 nouveaux cas de COVID-19 au Burundi face à l'augmentation du nombre de personnes testées positives à la COVID-19. Le comité chargé de lutter contre la propagation de la contamination, la contamination de la COVID-19 au Burundi a sorti ce vendredi un communiqué pour annoncer la fermeture des frontières terrestres et maritimes à la circulation des personnes à l'exception de la circulation des marchandises. Selon toujours ce communiqué, ceux qui voyagent par avion devront observer une quarantaine de 7 jours. On écoute Tadendi Kumana, ministre de la Santé et vice-président de ce comité chargé de lutter contre le COVID-19 au Burundi.
À partir du 11 janvier 2021, toutes les frontières terrestres et maritimes sont fermées à la circulation des personnes, à l'exception de la circulation des marchandises. À partir du 11 janvier 2021, tous les voyageurs à l'arrivée à l'aéroport international Ndada et Melchior devront se soumettre à une quarantaine obligatoire de 7 jours. Ceux qui seront testés positifs au COVID-19 seront transférés à l'un des centres de prise en charge pour traitement à leurs frais. Tous les voyageurs à l'arrivée au Burundi devront subir au minimum des tests COVID-19, le premier à la descente de l'avion et le deuxième au 6e jour de la quarantaine. Désormais, pour plus d'efficacité, le convoyage des voyageurs de l'aéroport aux hôtels de quarantaine sera assuré par des agents de la police nationale du Burundi. Ces derniers s'assureront également de la stricte mise en application des règles liées à la quarantaine dans les hôtels. 5. Les hôtels qui auront choisi de recevoir les voyageurs placés en quarantaine seront uniquement réservés à l'accueil et à l'hébergement de ces voyageurs en quarantaine et s'abstiendront d'ouvrir leurs portes à d'autres clients pour les services d'hébergement, de restauration, de réunion, de détente ou d'exercice physique.
C'était Tade Ndikubana. Selon le ministère de la Santé, le Burundi a déjà enregistré plus de 800 cas de COVID-19 et 2 décès.
Rôle de l'État dans la prévention de la COVID-19. À travers le ministère de la Santé publique, le gouvernement devrait élaborer des stratégies de prévention et de gestion de la COVID-19, à savoir une identification rapide des cas suspects, un isolement immédiat dans l'attente des tests, une prise en charge clinique sécurisée, créer des zones d'isolement avec un effectif de personnel suffisant, établir des canaux de communication entre les établissements de santé et les autorités de santé publique. Contrôler régulièrement l'application des mesures barrières pour la prévention de la COVID-19.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agateka Kawe,
en partenariat avec Internews, financé par l'Union européenne.
Rendons-nous dans le sud du pays pour parler de la réarrestation hier jeudi d'une habitante de la commune Matana de la province Bouloudi. Cette femme est accusée d'avoir brûlé un enfant qui travaillait chez elle avec de l'eau chaude. Elle avait été relâchée illégalement selon des proches de la victime qui exigent que justice soit faite. François Wittemann.
Cette femme était détenue à la prison centrale de Bouloudi. Selon nos sources, elle avait été arrêtée, accusée d'avoir brûlé avec de l'eau chaude un enfant mineur après avoir influencé l'enfant d'abandonner l'école. Cet enfant était en quatrième année primaire. Les mêmes sources indiquent que cette femme s'est évadée de la prison jeudi de la semaine passée, ce qui a étonné plus d'un, surtout ceux de la famille de l'enfant victime. Mercredi de cette semaine, 6 janvier 2021, Claudette Nimagalitse a été de nouveau arrêtée à Bujumbura. Selon les mêmes sources, elle a été conduite manu militari dans la prison centrale de Bururi, où elle est actuellement détenue. La famille de cet enfant victime salue cette mesure. Cette famille demande cependant que cette femme soit traduite devant la justice et punie conformément à la loi. Cette famille demande aussi que les complices dans cette évasion soient aussi arrêtés et punis. Des informations à Matana indiquent que l'enfant victime reçoit toujours des soins de santé. Pour le brûler, Claudette Nimagalitse avait collaboré avec un autre petit garçon travaillant dans le même ménage. Il serait lui-même incarcéré dans la prison de Bururi. Ces informations sont aussi confirmées par certains des responsables de la prison de Bururi.
Cap sur le Nord, plus précisément en province Muyinga, où plus de 4 780 000 sachets non biodégradables de petit calibre ont été saisis mercredi dernier à l'entrée du centre urbain de Muyinga, à destination de Bujumbura. Ils ont été saisis par le responsable provincial du Service national de renseignement selon des sources concordantes. Désiré Atungimane.
Ces sachets étaient emballés dans plus de 180 sacs et dissimulés dans des aliments de bétail à bord d'un camion de type Fuso. D'après nos sources à Muyinga, le camion était entré par Kobero en provenance de la Tanzanie, précisent les mêmes sources. Les 10 sachets sont habituellement utilisés dans l'emballage des denrées alimentaires en petites quantités comme du sucre, du pain, de la farine, de petits poissons ou du savon en poudre. 3 personnes sont en garde à vue pour des raisons d'enquête. Il y a quelques mois, d'autres sachets non biodégradables étaient saisis à Murama, en commune Muyinga. La situation est comme telle au moment où le gouvernement a déjà rendu public l'année dernière une loi sanctionnant les importateurs des sachets non biodégradables et tous les utilisateurs de ces emballages prohibés.
Rendons-nous au camp de réfugiés de Mahama au Rwanda. Certains réfugiés burundais se sont lancés dans l'élevage du bétail. Ils se réjouissent du rendement qu'ils ont. Le lait qui n'est pas consommé par leurs enfants est vendu au camp, ce qui leur procure de l'argent. Ils évoquent néanmoins le manque de pâturage et de médicaments pour leurs animaux. Audace Nimbona.
Les activités génératrices de revenus restent une préoccupation des réfugiés burundais du camp de Mahama au Rwanda. La radio Inzamba s'est entretenue avec des éleveurs de gros bétail. Ils avouent être satisfaits du rendement et vendent le lait aux voisins.
Le lait produit est vendu ici au camp. Il y en a qui ont de petites cafétérias et de petites pâtisseries. Et cela aide nos compatriotes burundais. Le lait aide aussi les parents qui ont des enfants, puisqu'il nous est difficile de trouver du fourrage. Les vaches ne produisent pas assez de lait. Nous leur donnons du son de maïs. Nous parvenons tout de même d'avoir 7 litres de lait le matin et 5 litres le soir. Nous obtenons en moyenne 10 litres de lait par jour.
Cette activité ne va pas sans difficulté. Ils évoquent notamment le manque de pâturage et de médicaments.
Nous avons la bonne volonté de pratiquer l'élevage, mais nous n'avons pas d'espace suffisant pour le faire. Dans l'entretemps, nous louons cet espace 20 000 francs rwandais par mois. Nous espérons qu'il aura un bienfaiteur pour nous aider. La deuxième chose que nous demandons, ce sont les médicaments pour ce bétail. Ils sont chers. Leur prix varie entre 3 000 et 15 000 francs rwandais. Tout ce que nous gagnons en vendant le lait est dépensé pour l'achat de médicaments, ce qui nous paraît très difficile.
Ils demandent aux bienfaiteurs de les aider dans ce travail qu'ils trouvent cher mais intéressant.
Audace Nimbona, la commission Vérité et Réconciliation a présenté hier jeudi son rapport devant les deux chambres du Parlement réunies. Selon Pierre Claver Ndaïtchelier, président de cette commission, la CVR s'est penchée sur les événements de 1972 de peur que les témoins disparaissent. Jean-Baptiste Bidéa.
Dans ce rapport présenté par la CVR, Commission Vérité et Réconciliation, devant les deux chambres réunies du Parlement, le président de cette commission, Pierre Claver Ndaïtchelier, a fait savoir que la CVR s'est focalisée en premier lieu sur les événements de 1972 qu'il qualifie de plus importants des événements qui ont endeuillé le Burundi. La deuxième raison qu'il a avancée est que les témoins de 72 commencent à vieillir, d'autres sont déjà morts.
La première raison qui nous a poussé à commencer par 1972 avec les membres de la commission, nous avons jugé bon de commencer sur les massacres de 1972 qui ont emporté beaucoup de vies humaines. Ces massacres n'ont épargné aucune province du pays. Le flou sur ces massacres a plané sur tout le pays. Le feu a couvert tout le Burundi. Des milliers et des milliers d'innocents ont été tués. La plupart des gens qui ont été tués ont été jetés dans des fosses communes alors qu'ils ne s'inquiétaient pas du tout qu'ils allaient mourir. La deuxième raison, c'est parce que les témoins, que ce soit l'un des victimes, ceux qui ont perdu les leurs, les responsables des meurtres, même ceux qui ont vécu ces massacres, qui sont encore en vie, commencent aujourd'hui à vieillir. La plupart d'entre eux sont déjà morts. Les autres sont morts de solitude et d'angoisse, avec une pauvreté sans nom. C'est pourquoi la commission a décidé de commencer à documenter sur les massacres de 1972. Frédéric Lambouniouvira, un des politiciens burundais, reconnaît que les événements de 1972 ont touché tout le pays, mais qu'avant 1972, il y a eu les événements de 1965 à Busangana, dans la commune de Bukeye. Selon ce politicien, il fallait commencer par les événements de 1965 pour entamer par après 1972.
Commencer par les disparus des années 72, que la raison, c'est qu'il y a des disparitions des témoins. Et compte tenu justement de l'orage, c'est une façon d'expliquer ce qu'ils font. Mais l'autre argument, c'est de dire, nous commençons par 72 parce que c'est l'événement qui a touché tout le territoire national. Autant ce deuxième argument est fondé, autant le premier n'est pas fondé. Le premier n'est pas fondé tout simplement parce que 65, il y a eu des massacres de Busangana, donc c'est un auparavant. Donc, autrement dit, ils auraient pu logiquement commencer par les gens de Busangana parce que les témoins de Busangana seraient en train de disparaître avant les témoins de 72. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, par rapport à 112, une histoire qui s'est produite sur tout le territoire national, c'est vrai. Ils ont raison, peut-être la différence justement qui peut justifier ce qu'ils font, ce qu'ils disent, c'est peut-être la différenciation de nombre, une histoire qui peut être conscrite à Busangana et une histoire qui peut être conscrite sur le plan national, là on peut comprendre le raisonnement. Mais en termes de disparition des témoins, je crois qu'ils auraient dû commencer par Busangana.
Vous saurez que pour cette année, la CVR compte, du moins selon le président de cette commission, concentrer ses activités au sud du pays, surtout dans la province de Rumonge, Bururi et Makamba.
Jean-Baptiste Bidéa, Monseigneur Jean-Louis Nahimana, qui a été le premier président de la CVR, l'ancien vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura, est décédé dans la nuit de jeudi à Bujumbura des suites d'une maladie. Son parcours avec Emmanuel Deschini.
Monseigneur Jean-Louis Naïmana est né à Rennes, en France, en 1964. Il a grandi dans la capitale Bujumbura, zone Kamenge, au quartier Heha. Il est mort à Bujumbura à la suite d'une maladie, comme précise le communiqué de l'archidiocèse de Bujumbura. Jean-Louis Naïmana était hospitalisé depuis quelques jours à l'hôpital Boumerec, situé dans la zone Kinindo, en mairie de Bujumbura. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l'église catholique du Burundi, plusieurs fois curé des paroisses Muranza, Nyakabiga, cathédrale Regina Mundi, esprit de sagesse, Sainte Famille et de Kinama. Il sera promu au poste de vicaire général de l'archidiocèse de Bujumbura de 2015 à 2009. En dehors de ses responsabilités au sein de l'Église, Mgr Jean-Louis Naïmana était beaucoup connu pour avoir été le premier président de la commission Vérité et Réconciliation à partir de décembre 2014 à décembre 2018. Il disait toujours que sa logique est d'aider le peuple burundais à se réconcilier, qu'il ne faut pas chercher la vérité pour se venger.
La seule voie qui va nous aider à sortir de ce bourbier dans lequel nous nous sommes, c'est effectivement arrêter de nous mentir en nous-mêmes, en essayant de vivre comme si rien ne s'est passé dans ce pays. Ce qui est important pour moi, c'est plutôt faire ce travail dans le but de guérir, mais pas dans le but de séparer ou alors de profiter de ces tribunes pour se venger, comme certaines personnes ont peur de ça.
Monseigneur Jean-Louis Naïmana rend son âme à l'âge de 56 ans.
C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez écouté. Excellente soirée.